Avant d'écouter un nouvel épisode de Calcio et Pépé, je vous encourage à aller faire un tour sur la boutique Calcio et Pépé. C'est sur www.calcioepépé.shop et vous trouverez des posters en papier, des affiches murales en aluminium consacrées au football italien. Milan, Juve, Inter, Roma, Napoli, la sélection nationale, les grands joueurs des années 80, 90 et 2000. Et encore d'autres posters dédiés au football européen avec plusieurs clubs espagnols, allemands, anglais, français, Ligue 1, Ligue 2 et d'autres sélections nationales, sans oublier même quelques affiches vintage. C'est un moyen de soutenir le podcast et c'est donc à retrouver sur calcioepp.shop.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ancora Totti, lo aspetta Materazzi, Totti si porta quasi in zona tiro, Totti si è liberato, pallonetto, Francesco Totti, un gol pazzesco, pazzesco per il 2-0.
Kaká in percussione, Xhaka all'ingresso in area ancora, Kaká, davanti al portiere, Kaká, rete, 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 Kaká.
Pallone che arriva, Trezeguet! Tony! Trezeguet! Pirlo, ancora Pirlo, di tacco! Tiro! Gol! Grosso! Grosso! Gol di Grosso! Prova a girarsi Icardi, destro secco! Rete! Rete! Proprio lui! Il capitano fa esplodere San Siro! Avanti Cavani, avanti Matador, avanti Matador! Sei tutti noi Matador! Ci prova con il destro!
E la rete! Si gonfia la rete! Si gonfia la rete! Si gonfia la rete! Matador!
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 29e épisode du podcast Calcio et Pépé, le podcast 100% foot italien. Après une semaine sans podcast, nous revoilà pour débriefer cette 26e journée de Serie A. Et comme d'habitude, vous en avez l'habitude, je suis avec Guillaume Maillard-Passini. Salut Guillaume.
Salut Johan et salut à tous.
Alors on est bien dans le dans la Serie A, Politano n'a pas été remplacé cette semaine et ça c'est quand même assez fantastique. On a eu encore beaucoup de polémiques sur le Lali, l'Olu, VAR, on sait pas comment on dit mais on sait toujours que ça provoque pas mal de polémiques. Et on a surtout eu deux gros chocs cette semaine, enfin ce week-end en l'occurrence, avec le derby romain. Et le choc entre le premier et le deuxième, entre Naples et la Juve. On va débriefer donc tous ces matchs-là. On fera un petit dolce pêle-mêle à la fin et quelques observations également sur diverses rencontres qu'on a pu regarder. Je te propose de commencer par le derby romain avec la victoire de la Lazio sur le score de 3-0. Je te laisse commencer, Guillaume, et puis on... Alors, déjà, première chose, c'est que je me suis tapé le match sur DAZN.
Aïe, 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 aïe.
Honnêtement, la qualité d'image de DAZN, c'est quand même assez scandaleux. J'avais l'impression de regarder sur un téléphone muni de Edge et sur un téléphone de 2016 ou de 2015. Franchement, la qualité était assez horrible. Et pour dire la vérité, à la mi-temps, je suis passé sur Bein Sport en français donc et non plus en VO parce que j'en pouvais plus, tout simplement. Et c'est vrai que les critiques reviennent assez souvent sur DAZN, sur la qualité de l'image, le fait que ça saute assez régulièrement. Le service de streaming n'est pas encore tout à fait au point. Je te laisse commencer donc du coup sur ce match.
Bah écoute, c'était un derby déjà assez attendu parce que forcément, au vu des classements des deux équipes, on savait très bien que la battue Il y aurait beaucoup de polémiques autour, entre guillemets. Et alors déjà, j'ai vu une Roma coupée en deux tout le match. Tu l'avais souligné d'ailleurs sur Twitter, mais j'ai vraiment vu, une Roma désastreuse au-delà du score, qui est très lourd pour la Roma, mais qui est assez mérité, c'est un fait. Mais c'est vrai que dans le jeu, moi, je suis vraiment inquiet pour la Roma, parce que s'ils jouent comme ça contre Porto, honnêtement, je pense que ça ira pas loin avec des champions. Et au contraire, puisque je te laissais parler de la Roma après, j'ai vu quand même une belle Lazio, voilà, qui a beaucoup joué aussi les deuxièmes ballons. Ils ont gagné tous leurs duels. J'ai bien aimé le coaching de Inzaghi, qui avait pris des risques aussi. Caicedo, c'est un choix payant. Alors certes, il profite d'une défense de la Roma, apathique. Mais pour c'est vrai, voilà, pour le moins apathique entre Fazio et Juan Jesus, hein, il me semble, à la Caicedo un peu la vie facile, mais c'est vrai que voilà, c'est un choix payant d'Inzaghi. Mais voilà, il a très bien préparé le match, tactiquement, techniquement, les joueurs ont été très justes. Et voilà, la victoire a été assez symbolique. Mais c'est vrai que voilà, je vais te laisser parler de la Roma, mais la Roma m'a vraiment fait peur. Et je me suis dit qu'à un moment, Di Francesco allait corriger ça, et en fait, j'ai même rien vu, même dans l'envie. On sait que le derby à Rome est toujours très attendu, tu vois, t'as des joueurs comme Florenzi qui, on le sait, le prennent forcément à cœur, et pourtant, j'ai pas vu de réaction, j'ai vu une équipe vraiment qui est à l'agonie, et ça faisait quand même quelques matchs, tu seras assez d'accord avec moi, je pense, on a déjà vu à Frosinone, c'était compliqué, où ils gagnent à la fin, je vous rappelle le match contre Bologne, où la première mi-temps était catastrophique, ouais. Et c'est vrai que la Roma, cette année, c'est vraiment... c'est les montagnes russes, mais c'est vraiment souvent vers le bas ou dans le sens, dans le contenu du jeu.
Ça monte pas très haut, on va dire, dans la montagne russe.
Exactement, dans le contenu du jeu, honnêtement. Ça avait quand même quelques matchs que j'étais inquiet. Et là, dans le derby, face à une équipe de Lazio qui était vraiment parfaitement préparée, ça a payé très cher pour la Roma.
Alors, j'ai commencé par la Lazio, du coup, parce que honneur au vainqueur, évidemment. La Lazio qui a très très bien préparé sa rencontre, tu l'expliquais, Simone Inzaghi. La stratégie était assez claire, c'était laisser le ballon aux joueurs de la Roma, être très présent sur les seconds duels, et c'est là où on a vu une densité physique qui manque cruellement à la Roma ces dernières semaines. On a vu notamment un très bon Milinkovic-Savic, j'ai trouvé, dans l'entrejeu, qui gagnait tous ses duels, qui se défaisait assez facilement de ses adversaires directs. On a vu un Cristante très à la peine, même De Rossi, je l'ai trouvé particulièrement en dedans. De Rossi, au bout de 20 minutes, il avait déjà les mains sur les genoux, donc c'est quand même pas très très bon signe. Et puis surtout, ils ont réussi dans les phases où ils subissaient le jeu de la Roma, ils ont réussi à isoler De Rossi, donc du coup, et toutes les relances passaient quasiment exclusivement par Fazio et par Juan Jesus. Donc dans la construction du jeu, c'est quand même très très moyen, ces deux défenseurs centraux. On est loin des défenseurs centraux un peu plus modernes, qui sont capables de faire jouer leurs équipes, de créer des décalages, d'avancer balle au pied, etc. Donc ils ont été très très bons là-dessus, en mettant un gros pressing sur De Rossi notamment. Et puis en ayant deux lignes assez proche, la ligne de la défense et la ligne du milieu, pour éviter que les joueurs d'espace de la Roma, que sont Pellegrini et Zaniolo, puissent trouver justement des espaces entre les lignes et se montrer dangereux, parce qu'on sait que c'est une des grandes forces de la Roma cette saison. Donc la Lazio a évidemment très bien préparé sa rencontre, elle n'a pas été extraordinaire, elle n'a pas été brillante, mais ça suffit largement pour battre cette Roma. Et puis d'ailleurs, pour parler de ce côté pas extraordinaire, si on regarde les expected goals hors penalty, puisqu'on sait que normalement on calcule hors penalty, puisque les penalty, la valeur est de 0,76, quel que soit le penalty, les deux équipes sont quasiment à égalité. Donc c'est, en fait, il y a eu assez peu de très grosses occasions, d'un côté comme de l'autre, mais la Lazio a été hyper réaliste et a su profiter de... En fait, si on regarde les deux premiers buts, donc le but de Caicedo et le penalty provoqué par Fazio, viennent de deux erreurs individuelles assez dramatiques. Et d'ailleurs, Di Francesco était très très en colère après la rencontre, en expliquant que même chez les amateurs, on voit pas de but encaissé suite à une remise en touche. Et c'est vrai qu'au niveau de concentration, d'état d'esprit, etc., les joueurs n'y étaient pas. Enfin, les joueurs de la Rome en l'occurrence. Donc, la Lazio a largement mérité, entre guillemets, son... Parce que le mérite dans le football, c'est un vaste, vaste débat, mais a bien remporté sa rencontre. Tu voulais ajouter quelque chose avant que je...
Non, deux chiffres, déjà, que j'avais noté, c'est surtout la 10e défaite de la Roma cette saison.
Ouais.
Toutes compétitions confondues, donc c'est pas rien. Et aussi, bah, la Roma qui a 6 points en moins l'année dernière. Donc, on y reviendra tout à l'heure, mais c'est vrai que le championnat
de saison est franchement, 6 points, c'est pas énorme au vu des prestations de la Roma.
Évidemment. Et c'est pour ça que je voulais en venir là, c'est pour te dire que le championnat, quand même, cette année, est pas très, très fou, mais je pense qu'on en parlera ensuite. Mais ouais. Dans le sens où, quand tu dis que la Roma a que 6 points en moins, alors qu'il propose quand même pas grand chose depuis le début de la saison, c'est de te dire qu'ils sont quand même toujours en course pour la Ligue des Champions. Donc, c'est vrai que c'est assez paradoxal, mais dans ce qu'on, sur le contenu du jeu, voilà, je pense que t'as tout dit, mais c'est vrai que la Roma, encore une fois, déçu. Et le problème, c'est que c'est pas la première fois. Et j'ai regardé tout à l'heure la une du quotidien que tu connais, Il Romanista, qui oui. est pour la Roma de Rome. Et j'ai trouvé son titre, très juste au lendemain du derby, qui disait, vous ne savez même pas perdre. Tu vois, dans le sens où il y a perdre et perdre. Et c'est vrai que quand tu perds un derby comme ça, sans rien proposer, même sans voilà, t'as même pas pris les armes pour lutter, quoi. Donc, c'est vrai que la défaite est assez dramatique pour la Roma, surtout dans ce qui a été proposé.
Alors, pour revenir sur le plan du jeu, j'ai 2-3 petits focus à faire côté Roma, du coup. D'abord, les choix de Di Francesco. Plusieurs choses assez étonnantes que je vois de semaine en semaine et qui ne sont pas corrigées et qui sont assez inquiétantes. D'abord, de faire débuter Zaniolo encore ailier droit. J'avoue que j'ai du mal à comprendre. Alors, en fait, je saisis l'idée, mais quand on est...
gâchis.
Parce qu'en fait, l'idée, j'imagine, il s'en explique jamais trop et on lui parle pas trop de cette... De ce point-là, j'imagine que l'idée, c'est apporter beaucoup plus de contrôle, puisqu'on sait que la Roma est une équipe qui a tendance à avoir le ballon. Donc l'idée, c'est plutôt que de mettre un ailier qui va tout de suite attaquer la profondeur, qui va aller jouer des 1 contre 1, etc. L'idée, c'est d'avoir un peu plus de contrôle dans la possession de balle, et puis c'est un joueur qui peut se réaxer et donc profiter d'espace entre les lignes. Sauf que on le voit de plus en plus, les adversaires de la Roma attendent très bas. On l'a vu avec le Milan, par exemple, lors du Roma-Milan, c'est un peu la même chose. Ils attendent très très bas. Et du coup, Zaniolo, il doit faire un exploit au milieu de 3 joueurs pour essayer de se montrer décisif. Donc, on l'a vu tout de suite avec la Lazio, enfin, lors de ce match contre la Lazio. Ça l'isole totalement sur le côté. Il est condamné à faire un exploit. Et en plus, je trouve... C'est que là, on l'a vu sur ce match-là, Zaniolo avait tendance un peu à râler, à sortir rapidement du match. Il ne faisait quasiment aucun effort défensif pour aider Florenzi, qui, on le sait, n'est pas un latéral droit. Ça va faire 4 ans maintenant, mais il est toujours pas latéral droit. Il souffre beaucoup et de plus en plus. J'ai l'impression que avant, il compensait beaucoup avec l'agressivité, l'envie, etc. Mais là, ça a un peu lâché dans sa tête aussi. Est-ce que c'est lié à ce qui s'est passé en fin de saison dernière? Je ne sais pas. Il y a des tensions avec les tifosi notamment, mais on a l'impression qu'il a un peu lâché. Et c'est pour ça que le choix de Di Francesco lors du match aller, tu te souviens, avec Santon arrière droit et Florenzi ailier droit, oui, avait été nettement plus intéressant parce que ce côté-là était beaucoup plus sûr et on sait que c'est un des côtés, c'est le côté le plus en difficulté sur les phases de contre-attaque des adversaires de la Roma. Autre chose que tu as évoqué dès le début, l'équipe coupée en deux. Moi, une équipe sur 60 mètres au bout de 15 minutes, j'ai vraiment du mal à comprendre.
Oui.
Zéro construction possible. Essentiellement des longs ballons pour essayer d'aller
exactement
toucher Dzeko. Sauf que quand Dzeko est pas dans un bon état d'esprit, comme il l'est depuis quelques temps
c'est
maintenant.
C'est pas la première fois.
Ça marche pas, c'est pas possible. Il est totalement isolé. Tous les joueurs offensifs étaient en 1 contre 1, voire 1 contre 2 en permanence. Autre chose, pour finir sur les choix de Di Francesco, l'entrée de Pastore. Bon. Que dire?
Oui.
Les mots me manquent. C'est un pari qu'avait fait la Roma et c'était peut-être un pari à tenter, mais au bout d'une saison maintenant quasiment, il est totalement raté entre les blessures, les prestations insignifiantes et surtout le manque de caractère qu'il incarne à merveille.
Il a un contrat de 5 ans, non? Il me semble. Il a signé un contrat.
Alors je sais plus si c'est 4 ou 5
ans. Je crois que c'est 4 ou 5 ans. Du moins, c'est pas un contrat de 2 ans.
Non, c'est pas un contrat court. Il a coûté 24,7 millions d'euros de mémoire. Voilà, il va falloir trouver une solution, que ce soit du côté du joueur ou du côté de la Roma. Donc ça, c'était pour les choix de Di Francesco. Malheureusement pour lui, il a eu à déplorer l'absence de Manolas au dernier moment pour une cause de fièvre, je crois. Quand Manolas n'est pas là, les erreurs défensives se voient tout de suite plus. Parce qu'on sait que Manolas, c'est un défenseur hyper complet. Et là où il est notamment très différent des autres défenseurs centraux de la Roma, c'est qu'il a une vraie pointe de vitesse qui lui permet de rattraper beaucoup de bévues de ses coéquipiers. Sauf que là, bah, quand t'as deux lourds, deux défenseurs très lourds comme Fadjo et Manolas, pas très dynamique, bah, ça se paye cash. On le voit avec l'ouverture du score où Caicedo se joue
les deux.
De manière sensible des deux. Et puis sur le penalty de Correa, bon, Fadjo se fait totalement avoir. Hein. Toujours cette question hein, qui revient sans cesse dans ma bouche depuis le début des podcasts, hein, Guillaume, pourquoi ne pas avoir recruté en défense centrale? C'est un truc dont je parle depuis mi-juillet, où c'est très léger, et c'est ce qui peut coûter très très cher à la Roma cette saison. Donc on verra ce que ça va donner contre Porto.
Défaite interdite. Et du coup, quid de Di Francesco? Qu'est-ce qui va se passer? Imaginons le pire pour la Roma.
Oui, comme d'habitude, imaginons le pire.
Voilà, parce que de toute façon, on est un peu habitué ces derniers mois. Imaginons, il sort contre Porto. Alors, est-ce que Di Francesco est programmé vraiment jusqu'à la fin de la saison et ensuite?
Non, je pense qu'en cas d'élimination, il sera démis de sa
fonction. Tu penses qu'il peut sauter en cas d'élimination?
Oui, je vais pas dire que j'en suis persuadé parce que en fait, ça peut venir que de Palota.
Parce que Monchi a lié son avenir avec. Ouais.
Voilà, donc quoi qu'il arrive, il soutient Di Francesco. Et sauf que Palota, il commence à en avoir plus cassé. Et les prestations se suivent et se ressemblent malheureusement. Et j'ai bien peur qu'une élimination face à Porto. Disons que ça serait une élimination face à, je sais pas, Manchester City ou le Barça.
Oui, ça
changerait rien. Là, face à Porto, ça serait une énième catastrophe. Faut quand même rappeler que dans la saison, il y a eu le 7-1 en Coupe d'Italie contre la Fiorentina, il y a un derby perdu 3-0, il y a eu des défaites.
Les matchs ric-rac, hein.
Voilà, il y a eu plein de matchs ric-rac, il y a eu une défaite à Pilsen en Ligue des Champions. On peut rappeler tous les buts d'avance qui ont été rattrapés par des adversaires comme à Cagliari ou le Chievo-Vérone, etc. Donc il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses cette saison qui ne vont pas. Et puis un dernier point, parce qu'on va approcher du quart d'heure déjà sur ce match. Mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Dernier point, j'espère que cette rencontre permettra à pas mal de journalistes, suiveurs, chroniqueurs, supporters d'ouvrir enfin les yeux sur cette Roma et arrêter de dire que le problème vient des jeunes de l'effectif et du jeunisme de cet effectif, puisque depuis le début de la saison, pardon, ceux qui sont le moins performants, ceux qui ne répondent pas présents, sont essentiellement les cadres comme Dzeko, comme Fazio, comme Juan Jesus, comme on peut même mettre dans les cadres Nzonzi, qui a quand même pas mal de difficultés. Alors après, à voir si c'est lié à son titre de champion du monde ou pas, comme d'autres joueurs français qui ont des difficultés cette saison. Mais c'est ces joueurs-là qui ont Florenzi, évidemment. Kolarov, voilà, comment ne pas citer Kolarov, qui ont failli et qui sont sauvés par des Cengiz Under, Lorenzo Pellegrini, Nicolò Zaniolo. Voilà, c'est eux qui aujourd'hui, Cristante sur quelques séquences où il a été un peu mieux au cœur de l'hiver. Voilà, c'est eux qui, bon, je compte pas Manolas qui est le seul cadre qui, avec De Rossi un peu aussi, enfin surtout en début de saison. Mais voilà, c'est essentiellement les joueurs d'expérience qui répondent pas présents. Et donc il faut arrêter avec ce problème du jeunisme qu'on nous rabâche depuis le début de la saison en long, en large, en travers, parce que Strootman est parti. Bon bah Strootman, il est plus titulaire à l'Olympique de Marseille, il s'est fait doubler par Morgan Sanson et Maxime Lopez, qui sont deux jeunes aussi. À un moment donné, il faut aussi ouvrir les yeux sur ce qui s'est passé et sur les véritables problèmes de cet effectif-là. Mais c'est vrai que on sait que les cadres ont des bonnes relations parfois, hein, et ça évite d'être trop critiqué. Voilà, on va dire ça comme ça. Est-ce que tu vois quelque chose à rajouter sur cette rencontre?
Je pense qu'on était assez complet, c'est complet. Je te dis, sur l'avenir de Di Francesco, je pense qu'on aura un aperçu au lendemain de Porto, mais c'est vrai que ça pourrait très vite bouger. Surtout qu'on sait que le derby à Rome est assez senti, comme on dit en Italie. Donc, voilà, on va voir ce qui va se passer. Mais je suis pas certain que lors du prochain podcast, si ça se passe mal à Porto, Di Francesco sera sur le banc. Donc, écoute, à suivre. Mais je pense qu'on est assez complet quand même sur le derby, non?
Oui. Je pense aussi. On va passer à un autre match qui avait lieu aussi samedi.
Juste avant,
exactement. Milan-Sassuolo. Victoire du Milan 1-0. Et alors, tu l'as dit pour le match là du Roma, je le dis pour Milan-Sassuolo, mais on y reviendra encore à la fin du podcast. Surtout, c'est que niveau émotion, on va dire ça comme ça, jeu divertissant, ligne directrice dans ce qu'il est demandé de faire une fois qu'on a le ballon au pied, c'est quand même les gros clubs cette saison en Serie A, c'est quand même très très compliqué.
Oui, oui, oui. Alors sur ce match spécifiquement, moi je vais partir du fait que c'est vrai que sur Twitter, alors voilà, les gens qui me suivent le savent, j'ai eu beaucoup de critiques ici et là en disant oui, Gattuso, tu t'acharnes, Milan est troisième. Donc à partir d'un point simple, moi j'ai regardé la conférence de presse de Gattuso juste avant le podcast, voir ce qu'il disait, voir ce qu'il évoquait, et je le cite, lui a dit que si Milan continue à jouer comme ça, il gagnerait plus un match, qu'ils n'ont pas fait un pas en arrière, mais deux, que dans le contenu du jeu, c'est depuis quelques matchs, c'est pas bon. Donc c'est pas moi qui le dis, c'est l'entraîneur. Donc si moi je le dis sur Twitter, c'est pas par plaisir ou par pour taper sur Gattuso volontairement. Moi j'aimerais bien dire l'inverse, que j'ai vu un jeu flamboyant, que je me suis levé de mon fauteuil, de mon canapé, alors que c'est pas le cas. On a vu le même match toi et moi. Honnêtement, samedi, je sais pas si je suis trop gros en disant qu'on a quand même assisté à une leçon de foot de la part de Sassuolo.
Non, je confirme. Ah.
Merci, je veux dire, moi je veux pas, faut pas croire que je tape gratuitement sur Milan, pas du tout. Évidemment que les gens savent que je sympathise un peu plus Milan, c'est vrai, mais quand je vois ce qui était proposé samedi, au-delà de la troisième place qui, je pense, a joué sur la psychologie des joueurs, parce qu'ils avaient beaucoup de pression, on sait que ces dernières années, ce genre de match, ils l'auraient perdu, mais c'est pas parce que Milan a gagné sur un but contre son camp tout moche, qu'on peut pas dire que le contenu du jeu a été désastreux. Le premier mi-temps contre Empoli n'avait pas été bonne, Gattuso l'a rappelé. Le match à Rome contre la Lazio mardi soir en Coupe d'Italie n'a pas été bon. Et samedi,
alors je me permets juste de te couper, vas-y. Guillaume, puisque je pensais qu'on l'évoquerait un peu plus tard. J'ai été voir du coup sur les dernières rencontres du Milan, en fait depuis début 2019. Les expected goals du Milan, donc en quelque sorte les occasions qu'ils se sont créées, on va résumer ça un peu comme ça, et l'opportunité de marquer qu'ils ont eu lors des rencontres en Serie A. Donc contre Sassuolo 1,32, contre Empoli 1,34, contre l'Atalanta 0,77, contre la Roma 0,78, contre Naples 1,25 et au Genoa 1,47. Si on accepte le match de Cagliari qui est à 2,37, donc c'est 2,37 buts attendus, entre guillemets, Milan se crée très très peu d'occasions. Et même le match à Bergame remporté 3-1, c'est 0,77. C'est-à-dire que c'est essentiellement des exploits. On se souvient du but de Piontek, par exemple, ou la frappe de, rappelle-moi, qui marque le deuxième but,
Çalhanoğlu.
Des frappes de loin ou des exploits de joueurs qui permettent à Milan de s'en sortir. Mais dans le jeu, il se passe rien.
Évidemment que alors c'est je pense que tes statistiques sont assez symboliques et c'est vrai que voilà, je l'avais déjà répété lors du dernier podcast, c'est que Gattuso en 2019 a dit voilà, on prend des buts trop bêtes. Du coup, première chose qu'on fait quand on construit une maison, on construit les fondations. Donc il a construit les fondations, il a renforcé la défense, c'est la meilleure défense même en Europe en 2019. Donc niveau défensif, ça marche. Le problème, c'est qu'une fois que tu as récupéré le ballon, c'est que tu sais plus quoi en faire. Et moi, quand je vois qu'il y a 60 000 personnes à San Siro qui n'ont pas réussi à s'enflammer samedi, alors encore une fois, le contexte psychologique du match a joué, et l'enjeu aussi, parce que l'Inter a perdu la veille, donc forcément la pression était sur l'équipe du Milan qui est assez jeune, donc forcément, Calabria d'ailleurs l'a dit après le match, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de pression, donc évidemment que ça a joué, mais c'est pas symbolique, c'est pas unique ces dernières semaines. Milan propose quand même très peu, et c'est vrai que moi, dans le contenu du jeu, au vu des Paqueta, des Çalhanoğlu, des Souza qui met plus un pied devant l'autre, des Piatek. Le pauvre Piatek, il est livré à lui-même devant. Donc il y a vraiment un problème dans le jeu. Gattuso le dit, donc c'est pas moi qui le dis, c'est Gattuso qui dit que voilà, si Milan joue comme ça, ils gagneront plus un match. Et c'est vrai, parce que tu gagnes sur un but contre son camp, sur un corner, voilà, sur un petit cafouillage. Mais dans le jeu, Sassuolo, c'était quand même beaucoup mieux. Je vais te laisser parler de Sassuolo parce que voilà, je sais que c'est un peu ton club chouchou entre guillemets. Mais c'est vrai que moi, du côté Milan, honnêtement, j'étais sur mon fauteuil et je me suis pas levé une fois. Il y a pas une action qui m'a fait vibrer. Il y a pas une action qui a été un peu spectaculaire. Alors qu'un joueur comme Paqueta, par exemple, je trouve qu'il est un peu sous-exploité pourtant qui enchaîne les matchs. Hein. Depuis qu'il arrive, il a joué tous les matchs. Mais c'est vrai que je pense qu'il pourrait être mieux exploité. Et Gattuso l'a dit en conférence de presse. Du coup, avant le match, il disait, bah, j'ai l'impression que Paqueta, il se préoccupe trop des tâches défensives. Ah oui, mais le problème, c'est qu'il faut aussi, il faut aussi lui dire qu'il ne l'en fasse pas trop non plus.
Ouais.
Parce que quand tu perds le ballon, t'as vu le bloc bas, à 10, à la fin, à 11 contre 10, du coup, parce que Concilia avait été expulsé, Milan avait quasiment pas le ballon. Et ils se sont rien procuré. Donc, comme tu disais, les expected goals, je pense que voilà, c'est un truc assez objectif et clair, qui ne discute pas. Donc, moi, vraiment, la prestation de Milan m'a déçu. La troisième place, c'est très bien pour le club. Et ça peut lancer une dynamique, mais dans le contenu du jeu, ce qui a été proposé ces dernières semaines, ça peut pas être satisfaisant ni pour Milan et ni pour les supporters qui peuvent être contents du classement. Mais je pense qu'ils attendent quand même à beaucoup mieux en ce moment du jeu.
Alors du côté de Sassuolo, je vais pas faire très très long non plus parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de Sassuolo dernièrement, mais les problèmes sont un peu toujours les mêmes. C'est-à-dire que arriver devant le but ou à se créer des opportunités, ça va. Dans le match, ils s'en sont créés même un peu plus que Milan. Je parle pas d'occasion, hein, je parle d'opportunité, on va dire ça comme ça. Ou pas de grosses occasions en tout cas. Mais simplement dans le dernier geste, que ça soit Berardi, que ce soit Juricic, que ce soit Matri, que ce soit Babacar, que ce soit Boga, c'est trop léger pour le moment. Et c'est vrai que bah, déjà le départ de Boateng pour moi a quand même pas mal joué. Parce que c'était un point d'ancrage et un facilitateur technique qui pouvait envoyer Berardi un peu plus facilement au but qu'actuellement. Mais c'est vrai que cette équipe souffre toujours un peu des mêmes problèmes. Alors Concilli se fait expulser et c'est vrai que lui, sa saison est quand même un peu plus délicate. On sait que bah, lors du dernier podcast, j'ai parlé de son jeu au pied notamment, qui est un peu délicat pour une équipe qui veut beaucoup repartir de derrière. Mais c'est vrai qu'on voit toujours un peu la même chose. On voit toujours cette circulation du ballon qui est fluide, qui est dynamique, qui est intéressante. Faut quand même préciser, bon, ça vaut ce que ça vaut, hein, mais Sassuolo, ils finissent le match avec 57% de possession en ayant joué 35 minutes à 10 contre 11 sur la pelouse du Milan. Je sais pas si on se rend compte quand même un peu du truc aussi, quoi. Donc voilà, c'est malheureusement un peu toujours les mêmes problèmes. Et tant qu'il y aura pas de, alors c'est marrant parce qu'on critiquait beaucoup De Zerbi pour beaucoup de journalistes italiens critiquaient De Zerbi pour son approche et notamment ce qu'ils estiment être un manque de travail, un manque de culture défensive. Mais le problème, c'est qu'il est plutôt devant. Le problème, c'est que Sassuolo marque plus assez de buts et surtout a des occasions, a des opportunités, mais dans le dernier jet, c'est beaucoup trop léger. Et le problème, c'est que bah, Berardi, aujourd'hui, il s'était fait un peu tenser par De Zerbi il y a 2 ou 3 semaines, mais ça change pas grand-chose, quoi. Il est toujours aussi peu concret, donc voilà, ce sera certainement un des gros progrès à faire la saison prochaine, c'est essayer de trouver un attaquant qui va concrétiser tout ce beau jeu et tout ce dynamisme, toute cette prise d'espace, tout ce jeu en mouvement fait par Sassuolo.
Écoute, moi, je voulais aussi souligner le match de Boga.
Ouais.
Je pense que tu as aimé aussi, qui a été vraiment impressionnant sur le côté gauche.
Qui monte en puissance.
Ouais, il a vraiment été bon. Il s'est procuré pas mal de coups francs dangereux. Il a beaucoup posé de problèmes à Calabria, qui n'avait pas aidé par Souza non plus, parce que Souza restait beaucoup devant et défendait pas beaucoup. Mais c'est vrai que Boga était vraiment le détonateur. Il a gêné tout le temps Milan de la première à la 90e minute. Donc voilà, je voulais aussi souligner le match de Boga, le choix de Di Francesco. On a tellement parlé, tu vois, que je pense à Di Francesco. Le choix de Zerbi, pardon, de le mettre et puis de
pas. Non, mais d'ailleurs, Di Francesco, c'est son fils qui a disparu. Hein.
Oui, c'est vrai.
Il commence la saison comme titulaire à Sassuolo et depuis, il ne joue plus. Et il rentre très peu en jeu. Donc,
c'est pas faux. Et Babacar n'est pas rentré, il me semble, non plus. Hein.
Donc, non, mais après, le problème, c'est que l'expulsion t'enlève un changement possible aussi.
C'est vrai.
Donc, bon.
Mais tu sais qu'après l'expulsion, Sassuolo a toujours eu dans le ballon. Hein.
Bien sûr.
Milan l'a gardé quelques fois. Mais à la fin, même dans le temps additionnel, c'était quand même très compliqué. Si on parle des individualités, 2-3 minutes, Çalhanoğlu qui a vraiment pas fait un bon match. D'ailleurs, l'équipe m'a paru assez empruntée physiquement, mais parce que bah, après elle tourne pas beaucoup, ce qui peut poser problème aussi. Mais c'est vrai que Çalhanoğlu, j'ai trouvé très emprunté, il a pas été bon. Souza, transparent. Ouais, ça fait quand même quelques temps et quelques saisons même.
Avis de recherche lancé pour le petit Souza. Hein.
Et chaque fois, chaque année et chaque saison, c'est toujours pareil. Il disparaît à un moment. Donc voilà, Souza qui a pas été bon. Piatek, bon bah, le pauvre, moi j'ai pas envie de le blâmer parce qu'il fait ce qu'il peut devant et il se bat au contraire d'Higuain qui lui à la fin en avait un peu marre, mais c'est vrai que lui Piatek au moins il provoque le rouge.
Attention Piontek, Guillaume, tu vas te faire taper sur les doigts.
Piontek. Piontek voilà qui a procuré le rouge, qui s'est bien battu au milieu de la défense de Sassuolo. Sinon Bakayoko, j'ai aussi vu assez emprunté qui est sorti d'ailleurs parce qu'il avait déjà un jaune. Voilà, il y a quand même quelques individualités qui ont pas été à l'auteur, ça fait quelques temps donc voilà, il y a un match à Vérone samedi soir qui est important, donc pourquoi pas aussi changer un peu, voir un peu des nouveaux joueurs plus frais. Rodriguez sera suspendu, donc il y aura à mon avis l'Axelt va jouer. Pourquoi pas Bilia qui est revenu, peut-être ton ami d'ailleurs Bilia, qui pourrait peut-être commencer le match, même si on sait qu'il a pas un match entier dans les jambes. Mais c'est vrai que je pense qu'un peu de sang frais, d'ailleurs Casillero, je pense qu'il a mérité de jouer aussi, qui mériterait d'être titularisé, parce que quand tu vois le match de Souza et Casillero qui est encore bien rentré dans l'envie, je pense que lui aussi pourrait titulariser. Donc
attention, petit quiz Guillaume, vu que tu parlais de Souza, est-ce que tu sais à quand remonte sa dernière passe décisive?
Sa dernière passe décisive,
oui.
Est-ce que c'est en 2019? Je crois pas. Hein. Je suis pas sûr qu'on a déjà.
Alors précisons qu'on enregistre, on est le lundi 4 mars 2019.
Je pense que c'était l'année dernière, non? C'est fin d'année dernière. Là comme ça, tu me poses une colle. J'ai pas envie de créer un blanc dans le podcast qui serait très gênant.
C'est le 4 novembre 2018.
Ah, tu vois, mais... Ah oui, quand même.
Donc on est à 4 mois pile sans passe décisive.
Et du coup, c'était contre
l'Udinese.
Ah oui, d'accord. Ouais, ça remonte un peu quand même, hein.
Ouais.
4 mois, ouais. Ouais, mais c'est pas, je te dis, il y a toujours, ceux qui suivent Milan depuis pas mal de temps le savent, Souza disparaît toujours au moment de la saison. Donc là, on sait qu'il a été papa, alors je sais pas si ça joue ou pas. Normalement, il devrait être content. Et puis, il a trouvé pas sur le terrain. Mais c'est vrai que voilà, après, on sait qu'il a eu il était blessé, il a eu des problèmes physiques. Mais là, honnêtement, il est vraiment transparent. Et j'ai vraiment l'impression que physiquement, il tombe facilement, il m'a l'air vraiment, il tient pas debout, donc c'est assez inquiétant. Et on sait que surtout c'est un peu le fantaisiste de Milan, parce qu'on sait que Paqueta joue, mais Paqueta joue au milieu, donc devant on le voit pas beaucoup, donc voilà, il y a beaucoup d'individualités qui sont en dessous. Moi je pense que Gattuso doit faire un peu tourner, alors il y aura un match par semaine, mais je pense que ce sera important aussi d'avoir des forces un peu plus fraîches, parce que sinon là le pauvre Paqueta qui a joué je crois 12 matchs de suite depuis son arrivée, je pense qu'il a bien besoin de souffler, donc voilà, après bon, je pense qu'on a fait un peu le tour du match. Je pense que j'ai répondu à ceux qui me critiquent sur Twitter, mais c'est vrai que moi je comprends pas. Les gens pensent que c'est mon plaisir. Je suis content.
Non mais en fait le truc c'est que t'as deux choses différentes. T'as le résultat en lui-même et la place occupée par le Milan,
évidemment
qui sont bons. Et puis t'as surtout le jeu, et quand t'es supporter ou observateur du Milan, t'es en droit d'attendre beaucoup plus de cette équipe-là, et en tout cas t'es en droit d'attendre autre chose que de te faire balader par Sassuolo à 10 contre 11.
C'est le mot, c'est balader.
Voilà, balader. Et le problème c'est que c'est pas la première fois, et voilà, il se passe trop peu de choses dans le jeu pour ne pas en parler. Alors on peut évidemment avoir la culture du résultat, c'est très bien, mais on peut aussi voir un peu plus loin. D'un club de Milan à l'autre, il n'y a qu'un pas, ou une couleur aussi, hein, du rouge au bleu. On va passer à l'Inter, et décidément ça va être un podcast assez critique envers les grosses équipes. On n'est pas très content de ce qu'on voit des grosses équipes dernièrement. Non. Et c'est aussi le cas pour l'Inter, qui vendredi soir est passé totalement à côté de son match à Cagliari.
Oui. Alors, ce qui est marrant, c'est que ceux qui me disent que je critique Milan, ils disent que je défends l'Inter. Donc, c'est assez paradoxal. Mais non, l'Inter n'a pas été bonne vendredi. La première mi-temps a été catastrophique. Ouais. À tous les compartiments, dans l'envie, dans ce qui était proposé, au niveau de la défense. Je pense que c'est un des pires matchs pour Skriniar depuis qu'il est à l'Inter. Vous voulez vraiment passer à côté.
Mais en même temps, faut se le coltiner, pas voler de la tête, dans les duels aériens. Quand tu joues contre une équipe qui a un jeu assez direct et qui mise beaucoup sur le jeu tête de son attaquant, en écartant beaucoup de jeux sur les côtés avec beaucoup de centres, c'est vrai qu'il faut se le coltiner et c'est vraiment
Pas simple. Hein, ouais. Exactement. Mais après, voilà. Il y a eu une réaction, alors, à partir de l'heure de jeu, où Cagliari a beaucoup reculé parce qu'ils avaient beaucoup donné dans le pressing et dans l'envie.
Mais justement, est-ce que c'est une réaction de l'Inter? J'ai pas le sentiment, en fait. J'ai l'impression que c'est plutôt Cagliari qui a vraiment baissé de pied parce que physiquement, ils pouvaient plus et ils sont mis en bloc bas totalement assumé aux alentours des 20-25 mètres.
Ouais, et c'était assez prévisible, comme tu vois là, le fait que Cagliari recule un moment, parce que c'est vrai que dans la première mi-temps, il avait vraiment beaucoup donné, avec le public qui était assez chaud. Et c'est vrai qu'à l'heure de jeu, voilà, tu savais que Cagliari, à un moment, allait quand même redescendre en pression. Et là, l'Inter a un peu mieux joué. Et comme tu dis, c'est aussi dû au fait que Cagliari, voilà, était plus trop dedans. Et voilà, ils ont quand même serré les dents, ils ont tenu. L'Inter s'est procuré 2-3 occasions. Moi, j'ai bien aimé quand même le match de Martinez devant.
Ouais.
Voilà, qui a eu des occasions, qui a fait plusieurs dribbles. Voilà, j'ai en souvenir le poteau. Il marque un beau but. C'est vrai que voilà, il a bien remplacé. Maintenant, il doit avoir l'habitude de remplacer Icardi. Mais c'est vrai que l'Inter a vraiment pas fait un bon match. Dans le collectif et même voilà, au niveau des individualités, il y a quand même des joueurs qui étaient clairement très en dessous. Mais je pensais vraiment, tu vois, je pensais qu'en deuxième mi-temps, l'Inter arriverait quand même à accélérer un peu et à au moins égaliser. Et malheureusement pour eux, hein, parce que les gens vont encore dire que je défends l'Inter, mais malheureusement pour eux, ils en parlent aussi. Mais c'est vrai que je pense que c'est la première fois, peut-être, où on ressent aussi l'absence d'Icardi, dans le sens où, au-delà du fait que le vestiaire peut-être s'est ressoudé, tu sais très bien que si tu n'as pas Icardi, tu n'as pas autant de buts que tu devrais avoir. Et son absence aussi s'est fait ressentir à la fois quand il fait rentrer Ranocchia en ouais. numéro 9, comme il avait déjà fait, tu te rappelles, il y a quelques temps. Voilà, c'est là que tu te dis que bon, il serait peut-être temps quand même de régler aussi le Cagliari dans un sens comme dans l'autre.
Alors, on va quand même parler de cette anecdote. Ranocchia encore rentré en numéro 9 à la fin du match. On va quand même compter à nos auditeurs le coup franc de la 89e minute tiré par Antonio Candreva. Donc, pour resituer un peu le contexte. Donc Spalletti fait plusieurs changements, il fait rentrer notamment Candreva qui passe côté droit, donc Politano part à gauche du coup, il fait rentrer aussi Ranocchia au poste de numéro 9, hein. Il le fait pas rentrer en défense, hein. Il le fait rentrer au poste de numéro 9, et donc là tout le monde se dit évidemment, bon la tactique est assez claire, vu que de toute façon le bloc est très bas, et qu'on peine à trouver des espaces au cœur de cette défense milieu des Sardes, eh ben on va arroser la surface de ballon, et de toute façon avec Ranocchia, avec Vecino aussi qui peut prendre de la vitesse et venir placer des têtes, avec Lautaro Martinez, eh ben on va peut-être finir par marquer un but. 89e minute, coup franc pour l'Inter qui doit être à 35-40 mètres à peu près. Et là, donc, tout le monde se dit, bah, Candreva va le tirer, il va chercher la tête de Ranocchia ou d'un autre joueur, Skriniar était monté, etc. Et non, là, Candreva nous sort une frappe de l'extérieur du pied à moitié qui part totalement en tribune, provoquant l'étonnement, on va dire ça comme ça, de ses coéquipiers et la colère des supporters. Tout le monde parlait de ça après le match.
Ah bah, la vidéo a tourné.
La vidéo a très très bien tourné, mais voilà, en gros... En même temps, c'est un peu un aveu de faiblesse, je trouve, de Spalletti, de se dire, bah, vu qu'on n'y arrive pas, de toute façon, on va balancer des longs ballons et puis advienne que pourra. Moi, ce que je trouve encore peut-être plus problématique que l'absence d'Icardi, même si bon, ok, il marque des buts, etc., mais je trouve que Lautaro Martinez fait un intérim plus qu'intéressant. C'est vraiment ce milieu de terrain où les profils de joueurs se ressemblent assez. Ça manque beaucoup de créativité. Et c'est vrai que, par exemple, si on prend le cas de Nainggolan, le truc avec Nainggolan, c'est qu'il est très bon quand il y a de l'espace devant lui. Mais l'espace devant lui, il faut réussir à le créer par des mouvements, par des appels, par des remises. Et ça, l'Inter n'y arrive pas. Et là où la Roma avait un Cengiz Under qui réussissait à se réaxer dans l'axe, à provoquer beaucoup de sortie de défenseurs de milieu qui venaient à son encontre pour essayer de le stopper, libérant des espaces pour Nainggolan, eh bien, l'Inter n'a pas ce type de joueur. Et le milieu de terrain, quand tu fais le tour du milieu de terrain de l'Inter, t'as Vecino, t'as Gagliardini, t'as Brozovic, des profils plus ou moins semblables, qui sont pas des très gros créatifs. Le joueur le plus technique, c'est évidemment Brozovic, qui a eu un très très bon passage, mais là qui a clairement plongé ces dernières semaines. T'as Nainggolan qui est pas un joueur créatif en lui-même, qui a besoin de beaucoup d'espace, de pouvoir frapper de loin, etc., d'apporter du surnombre dans la surface. Mais au-delà de ça, le seul qui pourrait avoir un profil assez intéressant, c'est Borja Valero, mais le problème c'est que physiquement j'ai l'impression qu'il est un peu au bout du rouleau, que c'est un peu la fin de carrière, et que dans les matchs à forte intensité, c'est un peu compliqué pour lui. Donc moi je trouve qu'il y a un vrai problème au milieu de terrain. C'est pas pour rien que l'Inter avait cherché Modric par exemple. Oui. Qui est un joueur capable de résoudre une situation avec une balle, une ouverture, un décalage, un 1-2 sollicité, etc. Et c'est vrai qu'il manque ce profil de joueur-là à l'Inter, et je trouve que leur manque de création vient essentiellement de là. Parce que tu peux pas tout reposer sur... On sait que Perisic, c'est pareil, c'est pas un gros créateur. C'est un mec qui va mettre un peu le feu sur le côté. Mais c'est insuffisant, quoi. Et c'est vrai que moi, je trouve vraiment que l'Inter est décevante, ballon au pied, depuis que Spalletti est arrivé. D'ailleurs, c'est un peu une constante, hein. Parce qu'il lui manque des joueurs capables de faire la différence balle au pied dans un secteur qui est aujourd'hui le secteur clé.
Et comme tu dis, c'est probablement pour ça qu'à mon avis, l'été prochain, c'est pas pour rien que la presse aussi parle, tu vois, de Rakitic.
Ouais.
Tu vois, qui est un peu aussi un ouais, créateur. Alors,
Rakitic, je trouve plus dans le profil quand même, prise d'espace. Moi, je trouve que c'est vraiment un joueur, un peu arrêté qu'il faudrait, tu vois.
À la Pirlo.
Ouais, exactement, un peu, bah, comme du Modric, comme du Pjanic, tu vois, ce type de joueur-là, ce type
Zaniolo.
De milieu de terrain. Oui, oui, dans un autre style, mais un joueur comme Zaniolo, oui. Qui est capable, sur des gestes techniques, sur, une vraie qualité technique pour jouer en appui aussi. Zaniolo, c'est vraiment différent de Modric, je trouve. Il peut plus jouer en appui,
évidemment.
Etc. Mais voilà, c'est ce type de milieu de terrain-là que j'irai chercher au mercato d'été si j'étais.
Il y a aussi le petit joueur de Brescia.
Oui, Sandro Tonali.
Voilà, Tonali aussi. Ouais. Qui pourrait, tu vois, un peu dans le genre-là l'été prochain. Mais c'est vrai que c'est
On pense à Barella aussi.
Oui,
on sait que l'Inter veut Barella.
Attends, mais c'est vrai qu'un créateur, en vrai poste du numéro 6, c'est vrai que ça pourrait être aussi même en relayeur, hein, mais c'est vrai qu'il manque, on le sait. Et comme tu dis, c'est pour ça qu'ils ont essayé de prendre Modric, ils n'avaient pas réussi. Et vraiment, sur le gond final, ils n'avaient pas le temps de se retourner. Mais c'est vrai que l'été prochain, ils savent que le poste à renforcer, ou le poste du moins à recruter, ce sera un mieux terrain, parce que la défense me paraît assez en place avec les trois centraux. Après, on va avoir Signor d'Arès, mais c'est vrai que Skriniar des Vrij, c'est quand même parti pour durer.
Il y a Godin qui arrive aussi, hein.
Il y a Godin qui arrive devant. Bon, on va voir ce qui va se passer avec Icardi, mais sinon ça va l'air pas mal en place.
Il y a les latéraux aussi où il faudra intervenir, je pense, parce que à droite, D'Ambrosio, j'ai fait un peu son éloge la dernière fois, mais c'est vrai que c'est l'éloge de l'état d'esprit, du fait de rien lâcher, mais c'est pas un top player. Quand tu compares avec João Cancelo à la Juve, par exemple, ça montre le gap qu'il y a à ces postes-là. Donc mais voilà, moi, un truc sur lequel je voulais insister aussi, c'est sur Spalletti, qui était réputé pour la qualité de son jeu lors de son premier passage en Italie, enfin, avant de son départ en Russie, en
à
tout cas,
Rome,
on va dire ça comme ça. Même à l'Udinese, hein. Tu te souviens, à l'Udinese, ça jouait très très bien à la qualification au tour préliminaire de Ligue des Champions à l'époque, ça doit remonter à peut-être 2003-2004. Ça jouait quand même très très bien. Ensuite, à la Roma, ça jouait très bien. Et là, quand il est revenu à la Roma, honnêtement, combien de matchs j'ai pu voir où la tactique se résumait à balancer un long ballon sur ou bien sur Dzeko pour qu'il dévie pour la vitesse de Salah, ou bien directement dans l'espace pour Salah qui faisait la différence avec la vitesse. C'était quand même hyper décevant. Et là, à l'Inter, son travail depuis 18 mois est aussi, je trouve, hyper décevant.
D'ailleurs, Spalletti, alors je sais pas si t'as vu hier, a pris quand même assez cher par Fabio Capello.
Oui.
L'entraîneur italien, enfin, l'ancien entraîneur italien, qui a à peu près tout gagné dans sa carrière, mais c'est vrai qu'il, voilà, pour faire gros, il a reproché à Spalletti sur Sky de mal avoir géré le cas Icardi dans le sens où il a dit, voilà, normalement, ça devait se régler entre quatre yeux, même si avec Perisic, voilà, il aurait dû se régler, voilà, entre eux et pas faire intervenir les dirigeants. Et voilà, il a un peu tapé dans le sens où il disait Spalletti a manqué de personnalité, il aurait dû comprendre ce problème beaucoup plus tôt et il aurait dû, voilà, intervenir dans le vestiaire, uniquement dans le vestiaire. Et alors, vu que ça a explosé maintenant, c'est un peu
difficile,
voilà,
de récupérer maintenant. Alors moi, je sais pas si c'est un manque de personnalité ou si, comme on l'avait évoqué il y a quelques temps, un problème de personnalité plus qu'un manque, parce que moi j'ai l'impression que tout tourne quand même beaucoup autour de sa petite personne.
Là, tu le sais, hein.
Et c'est marrant parce que j'ai lu un témoignage, j'arrive plus à me souvenir de quel joueur il s'agit. Un ancien joueur de la Roma, dernièrement, qui expliquait en gros que... je crois que c'est Dacour, je me demande si c'est pas Dacour. Qui a expliqué dernièrement que quand il était à la Roma, Spalletti avait fait toute une scène au bord du terrain et en après-match, parce que Dacour avait raté quelque chose ou avait fait un mauvais match, je sais plus trop. Et Dacour l'avait repris de voler dans le vestiaire en lui disant « Quand t'as quelque chose à me dire, bah tu me le dis en face, t'arrêtes de faire le cirque et c'est des choses qui concernent le vestiaire et pas les autres. » Et c'est marrant, ça met totalement en lumière ce que je pense de Spalletti dernièrement, de la gestion du Katotti aussi, où il a voulu se placer au-dessus de tout le monde. Alors on sait que la gestion du Katotti, c'est pourtant pas simple à la Roma, hein, et que tout n'est pas de la faute de Spalletti non plus, mais il y a cette habitude à vouloir se mettre en avant. C'est comme l'histoire d'Icardi, l'interview d'après-match, elle est un peu lunaire, de vouloir voilà allumer ses dirigeants, etc. Enfin, t'es l'entraîneur, reste à ta place.
Oui, c'est un peu comme quand il avait dit, je te rappelle, contre la Samp, hein, que Icardi était venu au stade, il avait dit après match, bah, au lieu de venir au stade, donc il sait bien qu'il soit venu, mais il aurait pu aussi dire dans le vestiaire, bah, tu bien peux sûr. Très bien l'appeler, et puis, bah, lui dire, bon, bah, écoute, et le prochain coup, tu peux passer, boire un coup dans le vestiaire, et puis ce sera très bien. Mais c'est vrai que plutôt que, tu vois, le dire en face à face, il a préféré le dire, voilà, sur Sky, donc, et après, bah, le lendemain, bah, après, c'est reparti, mais après, je suis assez d'accord avec toi sur la personnalité de Spalletti. Voilà, toi et moi, on sait que c'est vrai que il y a plusieurs témoignages de joueurs qui disent que Spalletti a un peu aussi un but de sa personne. Et voilà, et on le voit aussi très bien dans comment il se comporte dans les après-matchs, les interviews, où il a toujours, tu sais, un son parler très, il a un phrasé quand même qui est
théâtral.
Voilà, qui est assez particulier. C'est toujours dans le théâtre. Il en rajoute toujours. Et il a des phrases qui sortent de nulle part. Donc, il adore jouer sur ça. Il adore prendre du recul, un peu comme, bon, après le match contre la FIO, ça pouvait se comprendre parce que voilà, c'est avec le penalty, voilà, on va pas revenir dessus. Mais c'est vrai qu'à chaque fois après les matchs, il part toujours beaucoup, beaucoup trop loin. Et il adore faire ça, il sait très bien ce que ça va engendrer. Donc, c'est vrai que le Spalletti à l'Inter, ça pose aussi problème. Donc, écoute, on verra bien ce qui se passera à la fin de la saison, mais c'est sûr que le cas Icardi, je pense qu'il y aura quand même quelqu'un qui restera sur le carreau. Alors, je sais pas si ce sera le joueur, l'entraîneur ou l'un des dirigeants, ce qui m'étonnerait, mais c'est vrai que ça a fait un peu exploser le monde autour de l'Inter.
Allez, on passe à notre dernier gros match à analyser. C'était le gros choc en dehors du derby romain. Le deuxième recevait le premier, Naples-Juve. Et alors, Guillaume,
oui.
La thématique du podcast continue sur ces gros clubs qui ne proposent pas grand-chose. Dans le jeu, la Juve hier, j'ai trouvé ça assez...
Indigent.
Ouais. T'as le bon adjectif, ouais, indigent. Honnêtement, alors on va rappeler rapidement les faits du match, quoi. Mais il y a d'abord cette expulsion de Meret pour une sortie
non maîtrisée
sur Cristiano Ronaldo, qui offre un coup franc à la Juve que transforme Pjanic. La Juve ensuite mène 2-0, joue à 11 contre 10, et en fait la Juve a pris le bouillon. J'ai du mal à me l'expliquer très honnêtement. Alors on peut toujours parler des joueurs qui avaient toujours ce match de l'Atlético en tête, à la fois l'aller,
c'est ce qu'elle dit à l'idée, hein. C'est ce qu'elle
voilà,
dit
à la fois l'aller et aussi le retour qui arrive bientôt. Bon, pourquoi pas. Mais honnêtement, voir une défense aussi peu compacte, organisée et tactiquement au point, alors que t'es à 11 contre 10, enfin le. Alors après, évidemment, au début de deuxième mi-temps, après c'était un 10 contre 10 puisque Pjanic a pris un rouge, mais même le dernier quart d'heure, et tout de suite après le but, je sais pas si tu te souviens, Zielinski tape le poteau,
il
se retrouve
dire.
Quasiment tout seul devant le but, à 11 contre 10, enfin, c'est surréaliste quoi. Quand tu regardes la façon de défendre, notamment moi je trouve, alors on pointe beaucoup du doigt les latéraux derrière moi, ça a été De Chilio à Madrid, hier ça a été Cancelo et Alexandro aussi, mais alors Bonucci, Chiellini, je sais pas dans quel état ils sont là en ce moment, mais c'est très compliqué, hein. À la fois le match de l'Atlético et le match d'hier, ils passent totalement à côté.
J'ai trouvé une phrase très juste dans la Gazette d'État aujourd'hui qui disait que les vrais Bonucci et Chiellini n'auraient pas laissé le centre pour Calderón à la fin.
Mais bien sûr.
À la fin sur le 2-1, qu'il aurait dégagé en touche ou en corner.
Calderón marque quand même à quoi? À 4 mètres du but sur un centre qui vient, très étonnant, quoi.
Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Après le match contre l'Atlético, c'est vrai que tout le monde était un peu tombé des nues, ou ceux qui suivent pas forcément la série en disant, la Juve qui domine outrageusement le championnat et qui n'existe pas contre l'Atlético. Alors, j'ai pas envie de dire, nous on avait dit non, pas du tout, mais c'est vrai qu'on a au moins le mérite d'avoir souligné, tu te rappelles, au bilan de la mi-saison, en disant que la Juve était largement devant, ce qui est vrai, c'est un fait, mais en disant que dans le jeu, on s'attendait quand même beaucoup à mieux, et je pense que t'as pas été surpris, ou du moins t'es pas tombé des nues en voyant la défaite contre l'Atlético. Voilà, et certes, c'était assez surprenant la façon dont ils ont perdu. Dans le contenu du jeu, Je pense que ça fait combien de matchs qu'il joue vraiment pas bien. Ça commence à faire.
Ça commence à faire. T'as le match contre Parme aussi juste avant où c'était. T'as l'impression en fait que ça se repose beaucoup sur des individualités, mais aussi parce que j'ai le sentiment que le milieu de terrain est en vraie souffrance aussi, à la fois sur les phases pour gérer les phases de transition défensive et à la fois pour organiser le jeu. Par exemple, hier, tu vois, je regardais la Gazzetta aussi ce matin. Emre Can, homme du match. Bon, j'ai pas vu forcément le même match. Emre Can, je le trouve en très très grande difficulté ces dernières semaines.
Moi aussi.
Matuidi aussi. Blaise qui avait fait une très grosse première partie de saison. Là, je le trouve vraiment en difficulté. Pjanic, qui disparaît un peu comme du temps de la Roma. On avait l'impression qu'il avait un peu pris en maturité, expérience, exigence là-dessus, et qui dernièrement est passé plusieurs fois à travers aussi. Et c'est vrai que ce milieu de terrain, alors on dit que les défenseurs sont pas au niveau, mais ils sont aussi beaucoup plus exposés, je trouve, qu'avant.
Et tu sais que sur Twitter, hein, je vois souvent ça passer aussi chez les tifosi de la Juve, mais tu sais qu'ils comparent les deux milieux de terrain il y a quelques années avec Vidal,
Pogba,
voilà, Pogba,
bien sûr,
mais Marquisio aussi, et qui disent maintenant on se retrouve avec Emre Can, Matuidi, et puis tu vois forcément. Quand tu lis ça,
bien sûr.
Tu peux me demander si...
Après, un choix a été fait, hein, sportif, c'est de tout miser sur Ronaldo.
Bon, mais voilà. Tu vois, un joueur comme Marquisio, par exemple, qui a été pas mis à la porte, mais qui a été invité à partir, on va dire, dans un milieu comme ça, il n'aurait pas été non plus horrible. Donc, c'est vrai que comme tu dis, le milieu de terrain, quand même, c'est quand même un sacré problème. Ronaldo, hier, à part le rouge qu'il a procuré, on l'a pas vu beaucoup.
Non.
Comme à Madrid, d'ailleurs, contre l'Atlético, mais c'est vrai que ça fait quand même quelques matchs.
On a vu personne, Guillaume. Non, mais c'est vrai, si on regarde bien,
oui,
on va être
vrai.
Assez sévère.
Cancelo n'a pas été bon.
Dybala, son entrée, quelconque. Bernardeschi a pas été spécialement bon. Mandzukic a pas été bon. Ronaldo a pas été bon. Les latéraux ont pas été bons. La charnière a pas été bonne. Bon, ça limite quand même pas mal. Du coup, la marge de manœuvre sur ce Napoli. Alors on va finir sur la Juve et je sais pas si t'as encore beaucoup de choses à dire. Moi j'ai quand même une autre chose à dire, c'est les changements d'Allegri. J'ai pas du tout compris. Alors tu vois quand De Chilio part s'échauffer et va rentrer, je me dis bon, ils voient qu'ils souffrent. Ils sont à 10 contre 10. Ils voient qu'ils souffrent. Un milieu de terrain a été expulsé. Vraiment, le Napoli, notamment Alan, qui a été très très bon, Zielinski aussi d'ailleurs, vraiment, ils ont pris le dessus sur le milieu de la Juve. Et je me dis, bon, il va essayer de rééquilibrer un peu les choses, de sortir Mandzukic, par exemple, parce que j'imaginais mal sortir Ronaldo quoi qu'il arrive. Donc je me suis dit, il va sortir Mandzukic, parce que faut quand même se dire une chose, c'est que la Juve est défend en 4-4-1, du coup, après son expulsion. Dans ton milieu à 4, t'as quand même Bernardeschi et Mandzukic sur les côtés. Bon, c'est quand même pas vraiment des joueurs faits pour ce poste-là dans un milieu à 4. Et donc je me dis, bon bah il sort Mandzukic, Bernardeschi va aller sur le côté gauche, dans l'axe on aura Matuidi et Emre Can, et puis Cancelo va monter au milieu droit. Tu sais, comme sa rentrée lors du match face à la Lazio, où il avait été très bon, il avait totalement changé le match avec son entrée au poste de milieu droit. Bon, et puis là, en fait, je vois que c'est Cancelo qui sort. Je me dis, il reste exactement avec le même schéma. Alors qu'il souffrait énormément, et notamment le Napoli passait beaucoup sur les côtés. Le nombre de centres que tu as eu, c'est quand même impressionnant. Et notamment, le but vient de là. Pourquoi pas. Ensuite, je sais pas s'il se rend compte du truc ou pas. Il fait rentrer Bettencourt. Donc Bettencourt passe milieu droit. Bon, c'est pareil, c'est pas du tout son poste. Je l'ai trouvé un peu perdu et ne pas vraiment savoir comment répondre tactiquement au fait que ces joueurs étaient vraiment en difficulté, subissaient beaucoup l'agressivité des milieux du Napoli et aussi un jeu qui se déplaçait facilement de droite à gauche, et donc les joueurs étaient un peu comme une équipe de hand, hein, ça allait de droite à gauche et eux étaient en difficulté. Je sais pas si t'as ressenti le truc un peu comme moi du côté d'Allegri.
Exactement.
Mais je l'ai trouvé vraiment un peu perdu.
De toute façon, c'est pas une belle période pour lui, dans le sens où en Italie on parle aussi beaucoup de son avenir. Paratici avait été réinterrogé hier avant le match, où on lui a demandé du coup qu'est-ce qui va se passer en cas d'élimination entre Atletico. Les deux parties se sont pas cachées, parce que même Allegri à la fin était interrogé et disait on fera un point après le match là. Donc Voilà, et c'est vrai que c'est comme quelques matchs que ça joue mal. Hier, bon voilà, t'as très bien décrit le match. Dans le contenu du jeu, honnêtement, cette année, on s'attendait à beaucoup mieux, surtout au vu des joueurs que t'as en ton possession. Alors, le milieu de terrain est pas fou, mais tu peux quand même t'attendre à mieux au moins dans ce que tu proposes. La deuxième mi-temps, moi, je l'ai trouvé vraiment, mais c'était attaque-défense, quoi. Il y a eu 11 corners à 1. Les tirs, j'en parle même pas. Donc c'était vraiment, c'était assez incroyable de voir la différence entre le Napoli, comme tu dis, qui juste après le but a réagi, a tapé le poteau avec Zielinski, et même en deuxième mi-temps, voilà, c'est une attaque défense et si Nitini rate pas penalty, tu vois, le match nul aurait été assez logique en soi parce que.
Tu veux que je te donne les expected goals pour rigoler ?
Vas-y.
Le Napoli est à 2,06 et la Juve à 0,59.
Bah voilà.
En fait, c'est simple. Ospina n'a rien eu à faire. Il a été chercher deux ballons au fond des filets.
Voilà. Oui, bah oui. Après, j'aurais été, tu vois, curieux de voir le match parce que le Napoli avait commencé. On va parler du Napoli qui avait commencé d'une manière assez agressive, tu vois, dans le pressing, dans le. J'avais bien aimé même l'approche du Malcui, tu vois, qui n'avait pas été mauvais en début de match. Et après, bah, qui fait une erreur, voilà, qui change tout le match. Et c'est vrai que tu vois, 11 contre 11, j'aurais été curieux de voir ce qu'aurait proposé la Juve. C'est vrai qu'après, bah voilà, ils se sont un peu relâchés. Mais moi, le Napoli, alors je sais pas ce qu'on a pensé. Moi, j'ai bien aimé, j'ai même beaucoup aimé Zielinski.
Oui.
Voilà, qu'on a un peu retrouvé le Zielinski au début de saison. Insigné, voilà, bon, le penalty, c'est dommage parce que, bah, il aurait pu tout changer, mais je l'ai pas non plus très dramatique. Alors, il y a une chose que j'ai pas compris. Tu vas me dire aussi ton avis, c'est le changement après le rouge. Le fait que Milik sorte. Tu vois, moi, j'aurais peut-être pas forcément changé Milik et je pense que
moi non plus, mais t'aurais changé qui du coup? Je me suis fait effectivement au moment du direct, je me suis fait la réflexion sur Milik. Mais du coup, je me suis dit après, qui est-ce qu'on sort? Difficile de sortir Insigne dans un match comme ça, vu ce qu'il représente, vu sa capacité à déstabiliser des adversaires, à sa frappe de loin, à ne jamais négliger. Après, ça t'obligeait à vraiment changer ton milieu de terrain, quoi.
Oui. Après, je pense qu'Ancelotti, tu vois, s'en est rendu compte un peu de son erreur, entre guillemets, où à la mi-temps, il change Malcuit, il fait rentrer Mertens.
Ouais.
Alors, il passe dans une sorte de 3-4-2. Mais c'est vrai que pour le coup, qui changeait, ça c'est une autre question. Et c'est vrai que, bon, tu vois, dans un match à 10 contre 11, bon, sans savoir que Pjanic allait être expulsé ensuite, mais pour mettre des ballons à terre, pour protéger, pour faire monter le bloc, pour profiter des coups de pied arrêtés. C'est vrai que Nico est important.
C'est surtout pour profiter des centres aussi.
Aussi,
parce
oui.
qu'il y a eu beaucoup de centres, mais c'est vrai que.
Bah, 11 corners.
Voilà. Et puis, oui, ça, c'est les centres en dehors du jeu. Parce qu'il y a aussi les centres dans le jeu pour lesquels les corners ne comptent pas. Pendant que je vais te laisser parler, je vais essayer de retrouver la stat. Mais c'est vrai que Milik aurait pu être utile dans ce siège du but de la Juve.
Évidemment. Alors après, forcément, le fait que tu repasses à 10 contre 10 en début de deuxième mi-temps a un peu aussi changé la donne. Mais écoute, moi, je vais pas te mentir. C'est vrai que quand il a joué Milik, je me suis dit, bon, c'est dommage parce que c'est vrai qu'à 10 contre 11, son profil aurait été assez utile. Après, bon, c'est vrai que t'as pas tort. Qui changeait? Honnêtement, j'aurais insigné, je l'aurais pas fait non plus parce que je sais très bien que ballon au pied peut toujours te créer quelque chose.
Ouais.
Ou même frapper un coup franc ou, voilà, alors le penalty à la fin est raté, mais c'est vrai qu'Insigne, le danger peut toujours venir de lui.
Le problème, c'est que Calderón couvre beaucoup de terrain et quand t'as 10, c'est aussi utile. Le truc, ça aurait été de sortir un joueur entre Ruiz et Zielinski. Mais c'est vrai que ça.
Après, c'est vrai que c'était assez compliqué comme choix. Mais bon, tu sais que le profil de Milik dans un match comme ça peut être utile, surtout en infériorité numérique.
Alors j'ai retrouvé la stat, c'est 31 centres et corners à 6.
Voilà. Oui, bah oui. C'est assez éloquent. Hein. Et c'est sûr que Milik, au vu aussi des performances de Bonucci et Chiellini qui n'étaient pas ceux qu'on connaissait, aurait pu en profiter, mais.
Alors après, j'ai deux petites choses aussi que j'ai notées. Le péno raté d'Insigne, toujours cette l'impression qu'il y a toujours cette étape mentale à franchir qu'il ne parvient pas vraiment à franchir. Alors parfois, c'est indiqué dans la régularité de ses performances qui sont un peu en dents de scie, on va dire. Parfois, c'est sur des moments clutch. Là, effectivement, t'as au bout du pied le fait de revenir à 2-2. Et de vu comment tournait le match, de pouvoir pousser encore quelques minutes et peut-être de battre la Juve. Et c'est vrai qu'on a toujours un peu l'impression quand même que cette étape mentale à passer, elle est compliquée.
C'est dommage parce que la passe D pour Calderon est magnifique. Magnifique, hein.
Ouais. Et puis la deuxième chose, bon ça c'est anecdotique, mais quand même ça a ajouté à la tension de fin de match. C'est quand même Naples qui ne rend pas le ballon à la Juve. Je trouve que c'est vraiment une mentalité de... des fois on dit de petites équipes, mais le problème c'est que t'as beaucoup de petites équipes qui sont beaucoup plus classes que ça. Donc on rappelle, hein, c'est Dybala qui prend un vrai coup de Koulibaly, qui d'ailleurs échappe à un deuxième carton jaune et donc oui, à un carton rouge.
Qui l'aurait mérité. Hein.
Qui l'aurait totalement mérité, parce que c'était vraiment gratuit. Le ballon était déjà parti des pieds de Dybala. Chiellini met le ballon en touche vu que Dybala est à terre. Et en fait, le Napoli récupère le ballon et récupère la touche et ne rend pas le ballon. Il se met à attaquer, ça a ajouté beaucoup de tension à cette fin de match. Mais c'est vrai que quand on pense aussi au match de l'Atlético, il y a quand même
c'est
beaucoup
inquiétant
de questions qui se posent. Et moi, c'est vraiment la défense qui m'inquiète, quoi. On l'a vu déjà à l'aller. C'était sur des coups de pied arrêtés. Mais quand même, hein, c'est... Alors je crois qu'Allegri a dit, oui, on peut aussi renverser la situation sur des coups de pied arrêtés. Oui, enfin, l'Atlético, ils sont même très très forts aussi sur cette phase de jeu-là. Donc,
mais du coup, bilan des courses quand même, bon, bah, 16 points d'avance.
Ouais.
Et puis, bah, le titre en poche, hein.
Exactement. Mais, s'il y a sorti, contre l'Atlético, ça restera une saison ratée, malgré tout. Enfin, oui, ratée. Ouais, si, ratée, puisque.
Si, ratée, parce que c'est l'objectif.
Oui, hein. Voilà, parce que l'objectif, il est là, et que tu fais pas venir Ronaldo et revenir Bonucci, pour autre chose, quoi. Donc,
on est d'accord que sans Ronaldo, je pense qu'il aurait même gagné le titre cette année, hein.
Oui, c'est pas... bien sûr.
Ronaldo est venu uniquement pour apporter cette chose en plus.
Ouais.
En Ligue des Champions, pour passer ce cap mental qui est pas passé, et pour le moment, écoute, on verra le match retour. Mais c'est vrai que, comme tu dis, s'il y a élimination, et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'un rendez-vous est programmé quasiment au lendemain pour parler de l'avenir d'Allegri, parce qu'ils savent très bien que s'il y a des fêtes, honnêtement, on peut penser que le chapitre Allegri aussi pourrait se terminer en fin de saison.
Oui, et puis lui, je pense qu'il serait pas forcément contre aussi peut-être une expérience à l'étranger, il en a parlé plusieurs fois lors d'interviews, donc...
Bah, le cycle, on va dire, est quand même bien entamé avec Allegri, hein. Ouais, maintenant, c'est aussi peut-être là où on est à la page.
On sait qu'il y a des clubs aussi, des clubs... intéressant pour lui, qui vont chercher un nouvel entraîneur cette année.
Et pourquoi pas le Real ?
Il y a le Real, il y a Manchester United, il peut y avoir Chelsea aussi, selon ce qui se passe avec Sarri. Donc il y a
et
aussi
du coup, pour le remplacer, est-ce que tu vois un homme chaud arriver ? Un homme chaud...
Oui, bah bien sûr. Luciano Spalletti, non, je plaisante. Bien sûr.
Sans bouc.
En fait, il n'y a même pas trop de débat là-dessus. Non. C'est ça qui est assez dingue, c'est que tu dis pas, tiens, ça pourrait être X ou Y. Tu sais quasiment que ça va être lui, quoi.
Si tu veux, c'est tellement naturel de le penser que... Bon, là, on parle de Zidane, hein, parce qu'il n'a pas compris. Mais c'est vrai que c'est tellement naturel de penser que Zidane pourrait succéder à Allegri que, voilà, c'est vrai que, comme tu dis, c'est compliqué de penser à quelqu'un d'autre. Pourquoi pas Beppe Iacchini aussi, qui pourrait peut-être adhérer.
Oui, l'homme à la casquette. Ou Cosmis, tu veux un autre homme à la casquette. Mais
avec un bouc aussi, d'ailleurs. Ça, c'est
tu peux, chez les chauves, tu peux prendre aussi Di Carlo, éventuellement.
Oui,
a priori, ça sera pas lui.
C'est d'autres profils.
Voilà. Ou Marane, qui est à Cagliari actuellement. Mais c'est d'autres ambiances, on va dire.
C'est deux sales ambiances, quoi.
Exactement. Alors, on va passer au Dolce. Notre pêle-mêle d'observation à la fin. Alors, moi, je te propose de commencer... par on l'a déjà pas mal évoqué, donc on va faire vite, mais si on fait un bilan de la saison, alors il reste encore 12 journées, on n'en est qu'aux deux tiers, mais ces gros clubs nous ont quand même proposé assez peu de choses. Alors gros clubs, Juve, Inter, Milan, Roma, Napoli, et on peut même mettre la Lazio, parce que c'est beaucoup moins flamboyant que la saison passée, même largement. Ces 6 locomotives ont été quand même très très décevantes dans leur approche du jeu, dans le fait d'avoir une ligne directrice ou non. Tu vois, par exemple, si aujourd'hui on te dit, résume-moi en 3 points ce que cherche à faire Allegri à la Juve, Di Francesco à la Roma, Gattuso au Milan et Spalletti à l'Inter. Compliqué. Oui. Compliqué, qu'on ait de réponse sans se creuser le cerveau et réfléchir pendant de très très longues minutes. Mais c'est vrai que ça manque d'un peu tout. Alors les équipes ont eu beaucoup de problèmes identiques, manque de cœur. Alors on met la Juve évidemment de côté sur ce plan-là, mais manque de caractère, manque de régularité,
manque d'ambition,
manque d'ambition dans le jeu, se reposer beaucoup sur les individualités. Et c'est vrai que clairement, cette saison, je vais parler pour moi, mais on est d'accord là-dessus, parce qu'on a, on a déjà pas mal parlé ensemble. Si on veut prendre notre pied en voyant des équipes italiennes jouer cette saison, il faut aller du côté de l'Atalanta, du côté de Sassuolo, du côté de la Samp. Moi, je mets même une côté quand même, je mets même une équipe comme Empoli, quasiment au même niveau, parce que ce qu'ils font est assez intéressant, et il y a plein de problèmes, il y a plein de choses qui vont pas, mais au moins ils proposent des choses. Et même Mike Iacchini, où j'avais été mauvaise langue quand il était arrivé. Et la Fio, un match sur trois, on va dire, parce que c'est quand même très compliqué.
Ils ont une période très creuse, quand même.
Voilà.
Mais on va dire que depuis l'arrivée de Muriel, c'est quand même un peu mieux.
Un peu mieux, ouais, mais ça reste quand même.
Les deux Atalanta Fio qu'on a vu cette semaine, par exemple, toi,
c'était un régal. C'était un régal. Mais voilà, c'est pas avec les grosses équipes qu'on va vraiment voir des choses étonnantes qui vont nous permettre de réfléchir sur, je sais pas moi, sur les nouvelles méthodes de management, des choses qu'on voit pas ailleurs sur le terrain, des principes novateurs. Ouais, c'est quand même très très décevant. Ces grosses équipes sont quand même très très décevantes sur la partie Serie A.
Écoute, je suis d'accord avec toi. Moi, je te dis, le mot que je retiens, c'est le manque d'ambition. Voilà, dans le jeu, j'aurais aimé voir un peu plus de risques, pas voir uniquement le résultat. Alors évidemment qu'on sait que c'est important, que c'est primordial, mais voilà, moi j'ai du mal à m'enthousiasmer parfois sur des victoires un peu ric-rac, un peu minimaliste aussi, c'est vrai. Mais c'est vrai que cette saison, les grosses écuries, d'ailleurs, tu te rappelles, on en avait parlé il y a pas longtemps, mais quasiment, alors à part Milan qui a des points en plus, mais tu vois, la Lazio qui en a moins, l'Inter en a moins, la Roma en a moins. Tout à l'heure, je te disais en off que Napoli est l'un des pires deuxièmes de ces dernières années au niveau comptable. Donc la Juve va certes gagner son nouveau titre, va garder son scudetto, mais c'est vrai que le deuxième derrière a pas assuré non plus. Donc faudra aussi, voilà, on avait à la mi-saison, mais aussi faire un bilan de la fin de saison du Napoli d'Ancelotti s'il n'y a pas de victoire en Ligue Europa. Faudra aussi en parler. Mais c'est vrai que cette saison, les grosses écuries ont pas été forcément à la hauteur. Ça se voit, c'est simple, quand tu vois que la Roma a passé une grosse période creuse, qui a vraiment vacillé et qui est toujours en course pour être des champions. Mmh. Écoute, c'est symbolique. La Lazio a eu sa mauvaise phase aussi, Milan aussi. Donc c'est vrai que l'année dernière, des équipes comme la Roma et la Lazio, elle a une vitesse un peu folle, l'Inter aussi. Vous avez un peu ralenti en deuxième partie de saison, mais c'est vrai que cette année, voilà, on a un peu du mal à s'enthousiasmer sur les gros clubs. Donc comme tu dis, moi, tu vois, hier, à 18h, j'étais devant Atalanta Fio parce que je savais que j'allais pas m'ennuyer. Des matchs avant, Milan Sassuolo, tu vois, je me suis un peu ennuyé. La Juve hier, quand je vois ce qu'ils ont proposé, je m'ennuie. Voilà, alors on ne demande pas un festival d'erreurs ou des grosses bévues défensives pour voir 15 buts par match, mais moi je demande juste un peu plus d'ambition dans le jeu, voilà. Rien de plus.
Alors tu parlais d'Atalanta Fiorentina, tu veux développer un petit peu là-dessus ou
Écoute, j'avais un petit coup de chapeau entre guillemets à mettre pour le Torino.
Ouais.
Alors Cairo hier après la victoire a dit contre la victoire contre Chievo, pardon.
Tu m'as totalement foiré ma transition. C'est absolument magique.
Je voulais parler du Toro. Est-ce que j'ai le droit?
Bien sûr, tu as tout à fait le droit.
Et du coup Cairo après la victoire hier contre le Chievo, tu vois, ils ont dit c'est une belle victoire pour l'Europa League, et puis lui a dit on a récupéré 3 points sur l'Inter, on est qu'à 6 points. Donc écoute, il a dit pourquoi pas imaginer pourquoi pas avec des champions. Donc pour le moment c'est assez compliqué à penser, mais c'est vrai qu'ils sont qu'à 6 points.
On l'avait indiqué dès le début de la saison que le Toro avait fait un gros mercato, je crois qu'ils ont dépensé 40 millions d'euros si je dis pas de bêtises, 45, je sais plus trop. Mais gros mercato, très ambitieux, ça parlait d'Europa League 1 dès le début de la saison, et c'est ce qui est en train de d'arriver,
les
ils sont
chiffres,
dans la course en tout cas.
5e victoire d'affilée à la maison, 6e match sans prendre de but de suite.
557 minutes d'invincibilité pour Salvatore Sirigu.
Voilà, ils ont un record de points dans l'ère des 3 points après 26 journées.
Ouais.
Donc le Torino qui enchaîne, ils ont deux matchs faciles là. Je crois qu'ils vont jouer Frosinone et après j'ai un trou.
Mais écoute, Frosinone et match facile quand je vois leur deux derniers matchs contre la Roma et le Genoa.
Oui, c'est pas
je suis pas sûr.
Comme ça. Mais bon, disons que sur le papier, c'est un peu compliqué de jouer le Frosinone avec la Juve, par exemple.
C'est vrai.
Un peu plus facile. Donc, je voulais souligner Torino parce que c'est vrai que chaque semaine, ils gagnent. Et puis, en soi, Cairo, le président, a pas tort. Ils sont qu'à 6 points à l'Inter, hein, ce qui est pas énorme. Donc ils sont en course pour l'Europa League pour le moment. Ils enchaînent, ils prennent plus de buts. Bellotti a retrouvé le chemin du but d'ailleurs hier contre le Chievo. Zaza aussi.
Même Zaza se met à marquer.
Donc, ouais, même Zaza. Donc voilà, je voulais un peu souligner aussi le fait que le Torino réalise une très bonne saison. Donc à voir qu'est-ce qui va aboutir à la fin de la saison. Mais c'est vrai que pour le moment, le Torino est en course pour au moins la Ligue Europa et plus si affinité.
Alors moi, je vais revenir à Atalanta Fiorentina, vu que monsieur m'a totalement pourri ma transition. Non, moi, c'est voilà, je me suis régalé, évidemment. J'ai adoré ce match. Ilicic, quand il décide d'être le grand Ilicic, c'est quand même quelque chose.
Cette saison, il le fait un peu plus que d'habitude.
Ouais,
hein.
Beaucoup plus régulier, ouais, exactement. Et alors moi, je voulais mettre en avant un joueur dont on parle peu, voire pas. De cette équipe de l'Atalanta, est-ce que tu sais de qui je veux parler? On n'a pas répété.
J'étais persuadé que tu avais parlé du Papou.
Eh bien non.
Qui a réalisé un grand
match.
Non,
parce que c'est. Alors évidemment, il a réalisé un super match. Hein, ça, c'est pas pas en discussion. Mais je voulais mettre en avant un autre joueur. C'est Remo Freuler, leur milieu de terrain. Je le trouve cette saison exceptionnel. Je trouve nettement meilleur que De Roon au milieu de terrain. De Roon, il a un petit coup de moins bien là, en dehors de son erreur hein, hier, qui donne l'ouverture du score à la Viola. Mais globalement, je le trouve quand même un peu moins bien ces dernières semaines. Alors que Freuler, il est vraiment impeccable. Un abattage au milieu de terrain incroyable. Énormément de courses vers l'avant. Il propose toujours une solution. Toujours la tête levée à regarder pour orienter le ballon rapidement. Notamment sur le côté, il se projette beaucoup, il marque hier notamment. Enfin, vraiment, c'est un joueur. Tu vois, c'est typiquement le genre de joueur que j'imagine assez facilement dans un club comme la Roma, où ça manque vraiment de joueurs de caractère capables de tout ouais. faire et qui lui apporte beaucoup de dynamisme et de mouvement, qui manque beaucoup à Cristante, à Nzonzi, à De Rossi. Et c'est vraiment un joueur hyper hyper intéressant. Et bah écoute, alors il y a tellement de joueurs qui peuvent partir de l'Atalanta cet été. Le problème c'est qu'ils vont pas tous partir, hein, du coup. Mais lui, il y a des clubs qui seraient bien inspirés de le recruter parce qu'il est vraiment très très bon. Est-ce que tu vois autre chose à ajouter dans notre dolce pêle-mêle?
Bah écoute, je pense on va pas revenir sur la VAR parce que chaque week-end sinon on aurait
un... Ah bah on pourrait, mais c'est tellement une énorme blague.
Non, parce qu'on pourrait parler de, bah tu vois, de Ronaldo hier par exemple.
Bien sûr. On sait toujours pas où est la faute, comment est la faute, s'il juge qu'il y a faute, s'il juge que la sortie est non
dans
maîtrisée et
oui.
donc le pied en avant est hyper dangereux et donc
il y a eu aussi le Capiatek, voilà, Milan voilà, samedi.
Exactement.
C'est vrai que si on en parle, on est reparti pour un quart d'heure, donc voilà. On va pas forcément en parler. Voilà. Moi, j'ai fait mon petit coup de chapeau au Toro. Je suis content. Quagliarella, on pourra en parler aussi. C'est quasiment une habitude parce oui. que maintenant, les meilleurs buteurs avec Ronaldo. Donc, inutile de se répéter, mais je pense qu'on a un bon dolce conséquent, doux et sucré.
Alors, écoute. On va donc terminer sur...
Je le sais, sur quoi tu veux finir.
Sur quoi on va terminer?
Sur la question piège.
Non,
la question...
pas
non,
du
même
tout.
Pas.
Non, j'ai même pas de question piège cette fois. Non, je vais terminer sur la prochaine journée de Serie A. Et un podcast Calcio et Pépé. Ne serait pas un podcast Calcio et Pépé si on n'évoquait pas ensemble le match du dimanche 12h30, bien sûr. Celui qui fait lever des foules de Singapour à Bangkok, en passant par Osaka et Pékin. C'est bien entendu le match du dimanche 12h30 pour le marché asiatique, rappelons-le. Ça a été instauré il y a 6 ou 7 ans, je crois.
Ouais.
Maintenant, ou 5-6 ans, je sais plus. Pour le marché asiatique. Eh bien, figurez-vous que nous aurons droit à Kuala Lumpur, à un magnifique Bologne-Cagliari. Dimanche à 12h30. Voilà.
Je comprends toujours pas le concept, mais.
Voilà. Quand on dit que la Lega ne réussit pas à vendre la Serie A correctement, je pense que, un des aspects les plus marquants est quand même ce match de 12h30. Alors, figure-toi que je suis en train de calculer, j'ai fait sur les dernières saisons seulement, pour le moment. Je suis remonté, très exactement à la saison 2015-2016.
Sur les gros à midi et demi.
L'analyse des matchs de 12h30. Figure-toi, je ferai toute une analyse à la fin de la saison, hein, mais là je fais en rapide, en express. Figure-toi qu'en 2015-2016, alors j'ai pris les 6 grosses équipes du championnat italien, 2015-2016, les six grosses équipes du championnat italien avaient joué 15 matchs, puisqu'il y en a un qui concernait deux de ces équipes. Donc ça fait pas 16, mais 15. 15 matchs à 12h30. La saison 2016-2017, 16 matchs à 12h30. Sachant qu'il y avait encore un doublon, où deux grosses équipes jouaient à 12h30. Il y avait un choc qui avait été programmé à 12h30. En 2017-2018, 17 matchs à 12h30. Donc on est sur une phase ascendante, hein. On est 15, 16, 17. Eh bien, cette saison, nous en sommes à 6. Jusqu'au 17 mars, on ne sera qu'à 6 rencontres jouées à 12h30 par des grosses équipes.
Pourquoi
une du Milan, une de l'Inter, une de la Lazio, une de Naples, une de la Roma et une de la Juve. Alors qu'à l'époque, par exemple, saison dernière, l'Inter avait joué 6 fois, la Roma 3 fois, le Milan 3 fois. En 2016-2017, l'Inter 4 fois, Roma, Lazio et Napoli 3 fois. En 2015-2016, l'Inter 4 fois, la Juve 3 fois, Milan et Naples 3 fois. Ah voilà.
Mais la raison est simple, c'est que jusque cette année, à mon avis, ils ont fait pression en interne sur les gars pour
alors,
dire
écoute, je me suis renseigné dans deux clubs, j'ai pas trouvé de confirmation, on m'a dit non, on n'a pas entendu parler de ça. Mais effectivement, je pense que les gros clubs ont fait pression parce qu'on sait que la préparation toute la semaine est très différente pour un match de 12h30 que pour
évidemment
les matchs où ils jouent habituellement souvent à 18h ou à 20h30. Et donc, voilà, je pense qu'à la Liga, on a été obligé de faire en sorte que maximum il y ait deux matchs dans la saison, quoi.
Au vu de tes chiffres, pour que le changement soit aussi drastique d'une saison à l'autre, c'est même pas périodique, c'est pas une diminution petit à petit.
Non.
C'est vraiment d'un coup, on passe de combien l'année dernière, tu m'as dit en tout?
L'année dernière, c'était 17.
17, et là, on en a 6.
Ouais.
Et encore, la saison n'est pas finie, mais c'est vrai que voilà, le changement est assez
énorme. De toute façon, il restera plus que 10 journées après.
Voilà.
Puisque j'ai calculé jusqu'au 17 mars, on a le calendrier jusqu'au 17 mars. Il restera plus que 10 journées pour atteindre au maximum 16. Donc voilà. On sait très bien qu'il n'y aura pas un gros chaque journée qui jouera à 12h30.
Écoute, très bonne recherche en tout cas, bravo à toi.
Eh bien écoute, merci. Donc on va reprendre ce calendrier après avoir digressé pendant 5 minutes sur ce match de 12h30. Juve Udinese ouvrira cette 27e journée. C'est vendredi à 20h30, vendredi évidemment, pour organiser au mieux le match retour face à l'Atletico qui se jouera mardi 12 mars. Samedi à 18h, Parme-Genoa et ensuite Chievo-Milan. Voilà, Milan a une bonne opportunité encore de continuer sa course à la troisième place face au dernier du championnat. Donc le match du 12h30 dimanche, Bologne-Cagliari. Ensuite, notre multiplex à 15h avec Inter-Spal. Donc là, quand même défaite interdite pour l'Inter. Frosinone-Torino, donc du coup, vu que tu viens de l'évoquer. Et puis en termes de jeu, encore une fois, on se penchera du côté de Sassuolo-Napoli à 18h.
Oui.
Ça risque d'être intéressant. Et 20h30, un non moins intéressant Fiorentina-Lazio aussi, hein, qui va être
décisif
à la course pour la Coupe d'Europe, même si la Fiorentina est un peu en retrait derrière moi. Là, on va dire que c'est la dernière chance pour essayer d'accrocher le bon wagon pour disputer l'Europa League. Et on finira lundi, malheureusement, encore une journée sur 4 jours, avec Roma-Empoli à 20h30. D'ailleurs, c'est une petite précision, hein, on sait qu'en Italie, en Allemagne, les clubs ont fait pression et ils ne joueront plus lundi soir. À partir du prochain appel des droits télé, je crois que c'est en 2021. À partir de la saison 2021. Et en Liga, la même chose est en train d'être mise en place. Fin des matchs lundi soir. Et si la Serie A pouvait s'engouffrer dans la brèche, ça serait pas mal. Parce que c'est vraiment pas un jour et un jour pour le football.
Et surtout qu'on ait plus de matchs à 15h, hein.
Mais ça malheureusement en raison des droits télé, le maximum qu'on aura, ça sera 3 hors première journée et hors deux dernières journées où ils font l'effort de mettre plus de rencontres en multiplex. Voilà qui achève notre 29e épisode, cher Guillaume. On fait un rappel entre temps, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Twitter, Deezer, Spotify, SoundCloud, Google Podcast et iTunes. Évidemment, n'oubliez pas de nous mettre les petites étoiles sur iTunes et sur Google Podcast. Ça nous aide, ça vous prend 30 secondes et ça nous aide à progresser dans les classements et à faire découvrir ce podcast au maximum de personnes. N'hésitez pas à retweeter nos tweets d'annonce de podcast sur Twitter, etc. On vous remercie. On a évidemment à chaque fois des bons retours. On essaie de voilà d'améliorer nos podcasts au fur et à mesure. On vous réserve encore pas mal de choses et de surprises dans les semaines et les mois à venir. Voilà, on se dit donc à la semaine prochaine, cher Guillaume, en espérant du jeu chez les grosses équipes. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.